Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Flora Moussy.
Il est 10h07, vous êtes bien dans les grandes gueules du sport sur RMC. Merci d'être avec nous. On vous accompagne toute la matinée jusqu'à midi avec Sarah Pitkowski, Fred Weiss et Pascal Duprat. Le ring des GG dans quelques instants. On va parler du top 14 qui pourrait être bousculé et rééquilibré, surtout dans les années à venir avec l'arrivée en 2027 de Thomas Ramos au Racing 92. La punchline des GG à suivre aussi est signée Pauline Ferrand-Prévot. Je ne suis pas au niveau, tout simplement, donc il n'y a pas de regret à avoir. La Française tenant du titre, mais larguée au classement général du Tour de France Femmes, qu'elle ne gagnera pas cette année. Le vestiaire autour des fortes chaleurs, comment les GG géraient ça quand ils étaient sur le terrain. Sans oublier évidemment les jeux du sport en fin d'émission. On vous rappelle que tout ce week-end, on vous fait gagner un an d'abonnement Basic Fit pour vous entraîner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans plus de 300 clubs en France. Pour remporter cet abonnement, vous envoyez sport SPORT au 7 32 16. Le sport, justement, il en est question ce matin dans la Seine. Tu nages pas ce matin, Fred ?
Non, je finis d'abord et après j'y vais.
Championnat d'Europe, évidemment, de natation en ce moment à Paris. Ça débutera aussi lundi pour les compétitions en bassin. Mais en attendant, on est dans la Seine, en eau libre, avec le relais 4 x 1500 mètres conçu avec Clément Brossard. Salut Clément !
Bon, je m'attendais à voir Fred Weiss ce matin.
Bah puisque ouais, en petit maillot de bain, amateur, franchement, je pense que ça brûle des
fous. Attends, j'ai
l'image d'un coup,
c'est exceptionnel. Arrêtez un petit peu, je me sens pas bien là.
Non, mais je crois qu'il se prépare ce tour pour le plongeon au vol de cet après-midi, avant qu'il saute à 20 mètres, Fred.
Ben voilà, voilà, merci.
Ah, là, c'est plus de ton calibre.
Ça, c'est plus moi, ça.
Très bien. Alors, il y a l'équipe de France qu'on suit évidemment ce matin avec toi, Clément.
Ouais, c'est parti pour cette dernière épreuve en eau libre 4 x 1500, donc ce relais dans la Seine après les deux belles médailles françaises hier sur le 3 km knockout pour Logan Fontaine en bronze et Marc-Antoine Olivier en argent, ce dernier qui voudra mettre une seconde médaille autour du cou de sa petite April, un an et un mois seulement. Elle avait le grand sourire hier de voir papa déjà heureux, alors on imagine qu'il va courir avec cette force mentale en plus. Il sera sur le relais, Marc-Antoine Olivier, avec Sacha Velli, Louane Godère et Inès de la Croix, qui est plutôt bien depuis le début de la semaine, même si elle n'a pas eu de médaille. Louane Godère qui a pris le départ, mais il y a une grosse concurrence, Flora en face, les Allemands emmenés par Florian Velbrock en or sur 10 km et 5 km, la Hongrie aussi portée par ce diable de Bethléem, vainqueur sur le 3 km knockout hier, et les Italiens de Paltrinieri et de Tadeucci, vainqueur elle aussi sur le 10 et le 5 km. C'était il y a 2 et 3 jours, donc c'est parti depuis maintenant 10 minutes sur ce relais, mais on espère bien accrocher une troisième médaille en eau libre après les deux belles d'hier.
Merci beaucoup Clément, tu suis ça évidemment pour nous dans les GG, on viendra te voir.
Tu m'attends, j'arrive bien.
Je t'attends Fred, pas de soucis, je te fais par le plongeoir.
À tout à l'heure Clément. C'est sans doute l'info de la semaine dans le monde du rugby. Thomas Ramos va quitter le Stade Toulousain à la fin de la saison prochaine pour rejoindre le Racing 92. De quoi peut-être rééquilibrer les forces en top 14 alors que jusque-là, Toulouse martyrisait tout le monde, ou presque.
RMC, le ring des GG.
Le tabac qui est passé.
Oh là là, il va
laisser. Tu vas la laisser.
Il va la laisser.
Incroyable. Il a crucifié. Il a crucifié la Rochelle.
J'en peux plus. J'en peux plus.
Il en prend de tout. Et ça va aller laisser. 8e essai. Attention, il travaille. Capoto, il remet les jambes. Il va y aller ou pas? Capoto, laissé. Le 9e essai toulousain. En quoi? C'est une orgie.
J'en peux plus. Il y a des jours, on peut, et là, je ne peux pas.
Ramos qui s'élance. Vous entendez la sirène, à moins qu'il la loupe, et ça prend pas le chemin. Le ballon qui passe entre les paires.
Et c'est le Stade Toulousain gagné.
Le Stade Toulousain, champion de France, cette génération est inarrêtable.
Enfin, je suis au bout du rouleau.
Le triplé pour Toulouse, victoire 39 à 33, comme toujours en finale. Le Stade Toulousain est le roi.
Allô, SOS Détresse.
Ah, il faut reprendre derrière ça. Merci à toutes les équipes d'RMC qui travaillent fort tous les matins évidemment pour proposer toutes ces productions bien léchées. Un transfert de Thomas Ramos donc au Racing 90 pour 2027 qui fait beaucoup parler et qui pourrait surtout changer beaucoup de choses. On va voir tout ça avec Pierre Thévenet. Salut Pierre.
Salut Florent, salut à toutes et à tous.
Salut.
Salut Pierre.
C'est un vrai tremblement de terre, hein, Pierre, qui secoue le rugby français avec cette annonce, et ce n'est peut-être que le début d'ailleurs.
Oui, c'est la première fois dans le cycle de domination toulousaine que les Rouges et Noirs laissent partir leur joueur star. Thomas Ramos, c'est peut-être un des trois meilleurs joueurs de l'équipe de France, le meilleur réalisateur de l'histoire du club et des Bleus. Ce départ s'explique de plusieurs manières. L'arrière aura 32 ans l'année prochaine. Lorsqu'il arrivera au Racing, gagnera sans doute mieux sa vie chez les Célé Blancs, où il sera la star du projet. Alors que selon le Midi Olympique, le Stade Toulousain aurait annoncé à ses trentenaires qu'une prolongation passerait par une diminution salariale, en partie car le club est en proie à des soucis au niveau du respect du fair play financier, a fait appel d'une amende de 2,88 millions d'euros. Presque une nouvelle réalité à gérer pour le Stade Toulousain qui va devoir batailler pour garder ses stars. D'autant que jusqu'à maintenant, il disposait d'importants crédits internationaux. Alors là, écoutez bien, c'est pas évident, mais pour chaque international formé pour l'équipe de France, les clubs recevaient jusque-là une autorisation de dépenser 180 000 euros supplémentaires. C'est pas de l'argent qu'on leur donne, mais c'est de l'argent qu'on leur autorise à dépenser. Et avec une quinzaine d'internationaux, la limite de masse salariale du Stade Toulousain était au-delà de 13 millions, plus de 2,5 millions au-dessus de la limite officielle. C'était le cas pour Bordeaux également. Et ces crédits seront désormais dégressifs. Et donc avoir autant d'internationaux ne va plus être rentable pour un club. Et après le départ de Thomas Ramos, les autres joueurs en fin de contrat cette année, on pense à Anthony Jelonche, à François Cross ou à Emmanuel Méafou, risquent évidemment d'être convoités.
Effectivement, ça pourrait encore bouger. Merci beaucoup Pierre, tu restes évidemment avec nous. Alors les GG, avec ce transfert de Thomas Ramos, croyez-vous à une redistribution des cartes en top 14? Sarah?
Bah oui, la démonstration vient d'être faite.
Fred?
Non, évidemment la démonstration vient d'être faite.
Pascal?
C'est quand même dingue qu'on entende la même chose et à qu'on l'interprète différemment.
À terme, oui.
Ben oui.
Très bien.
Oui,
pour le moment, on vous a posé la question aussi sur X. Et pour le moment, vous répondez non à 76%. Ça va donc être à Sarah et Pascal de convaincre aussi nos auditeurs de changer éventuellement d'avis. Sarah, ça semblait évident pour toi que ça allait tout changer.
Ben, oui, ça, c'est évident déjà sur le plan financier, puisque ce salary cap qui est imposé en France, eh bien, équilibre. En tout cas, tente à équilibrer les clubs et donc la concurrence. Et de voir un Thomas Ramos aujourd'hui partir, c'est unique, c'est exceptionnel. C'est d'autant plus presque choquant, c'est qu'il va encore jouer. Il faut comprendre, hein, il va encore jouer une année pour le Stade Toulousain.
Oui, oui. C'est-à-dire en sachant qu'il part à la fin de la saison.
Il part à la fin de la saison, c'est-à-dire qu'il part pas là tout de suite. Donc, il va jouer pour Toulouse, tenter d'aller chercher des titres, rencontrer son futur club où on lui offre un pont d'or, ou en tout cas, on va le mettre dans une situation de star, et surtout du poste qu'il a envie de jouer, alors qu'il ne peut plus, il ne peut pas vraiment l'avoir, sauf quand il y a blessure du côté du Stade Toulousain, notamment d'Entamac. Donc oui, ça forcément, cette redistribution, elle est en train de s'installer petit à petit. Et comme le disait Pierre Thévenet, il y a d'autres joueurs trentenaires du Stade Toulousain qui vont s'expatrier, et ils vont pas s'expatrier à l'étranger. Parce que le meilleur championnat est en France. Donc ils vont aller renforcer d'autres clubs qui sont potentiellement des adversaires. Et on sait que le Racing 92 est un des premiers adversaires du Stade Toulousain. Donc je ne vois pas comment ce transfert annoncé avec un an d'avance ne va pas à terme redistribuer les cartes. Et j'ai envie de dire je perds mon mot, mais je vais y arriver. L'indécision du championnat, en fait.
Ça va donc renforcer le suspense, en tout cas,
exactement.
En top 14.
Et il est victime. J'ai envie de dire que Thomas Ramos devient la première victime de la nouvelle équation du Stade Toulousain.
Oui, parce qu'il serait sans doute pas parti.
Il serait sans doute pas parti. Il est au club depuis toujours.
Fred va t'expliquer. Ah, Pierre a une précision à nous apporter.
Laura, pardon, juste sur le Stade Toulousain, il faut pas voir le Toulousain non plus comme Thomas Ramos leur a pas mis le couteau sous la gorge.
Bien sûr,
discuté et Thomas Ramos, le Stade Toulousain a Ange Capozzo, a Blair Kinghorn, a Mathias Rémy, un jeune belge, a beaucoup de joueurs capables d'évoluer. Et c'est aussi un projet vivant, c'est un joueur qui aura 32 ans l'année prochaine et qui sans doute réclamait plus que ce que Toulouse pouvait à l'heure actuelle lui offrir.
Bien évidemment. Sarah, tu disais comment on peut penser le contraire. Fred va te l'expliquer, regarde.
Vas-y, explique-moi.
Alors c'est extrêmement simple. Déjà, il y a un an. déjà il y a un an, et ça voudrait dire qu'on est en train de dire que Toulouse est un club de débile qui est pas capable de préparer l'avenir en ayant des joueurs et en formant des joueurs. Pierre vient de l'annoncer, mais c'est surtout cette année, c'est une année de transition pour eux. Ça va leur permettre de tranquillement passer la main, ça va leur permettre tranquillement de former des joueurs pour être les remplaçants.
Oh, tu formes pas en une année.
Parce que ça fait des années déjà qu'ils sont formés. Mais maintenant, il va être formé à un autre rôle.
Donc ça veut dire que tu penses que Thomas Ramos va tirer le banc comme Aldeguerri
C'est pas du tout ce que j'ai dit en fait, mais si tu me laisses expliquer, tu pourras comprendre assez facilement. Il faut se rendre compte quand même que le rugby est un sport collectif. Un seul joueur change pas et toute cette donne incroyable. La domination est juste incroyable du côté de Toulouse. Il y a un effectif, une profondeur de banc. Et il faut se rendre compte aussi,
qu'est-ce qui est passé qu'ils ont vainqueur au stade toulousain.
Justement, il y aura un prochain parce qu'il a 32 ans. Et pourquoi miser sur le passé? En fait, il faut connaître l'évolution et il faut connaître le sport. Et quand on connaît le sport, et notamment le sport américain, on se rend compte que nous, on est bloqué par le salary cap depuis des années et que les équipes compensent autrement. C'est-à-dire qu'elles prennent des joueurs plus jeunes.
Ce salary cap a permis un rééquilibrage aussi des
efforts. Tu veux dire que Toulouse qui gagne, ça rééquilibre les forces? Pas du tout. En fait, ce que je veux dire, c'est que quand t'as une équipe qui a autant d'avance, qui a autant la possibilité d'avoir un effectif qui lui permet de changer les joueurs. Thomas Ramos, il avait envie de partir, il est parti, on l'a pas retenu. Parce qu'on sait facilement qu'à Toulouse, on peut le remplacer. Mais c'est surtout que vous êtes en train de me dire que ça rééquilibre tout. Qu'est-ce qui s'est passé?
Tu parlais du salary cap. Le Stade Toulousain n'a pas toujours respecté ces dernières années.
Le
rééquilibrage va être vraiment valable maintenant.
Le seul truc que je puisse vous accorder, c'est que l'évolution dans quelques années, oui, mais un joueur ne changera pas la face. L'évolution de ce salary cap, l'évolution de la gestion des joueurs va permettre certainement de se rééquilibrer. Mais quand t'as autant d'avance, c'est pas possible. Rappelons-nous ce qui s'est passé en demi-finale. C'est quoi le score de la demi-finale contre le Racing? Toulouse Racing? 71-17. Donc ils ont un petit peu d'avance. Et je suis pas sûr qu'un seul joueur change. Donc je pense que c'est l'évolution
après,
normale.
On n'est pas en train de dire que le Racing va être le seul à concurrencer cette avancée-là, le salary cap et les transferts éventuels entre clubs, parce que Sarah l'a rappelé, effectivement, les clubs français sont les meilleurs aujourd'hui au monde. Donc les joueurs vont rester en top 14. Oui. Ça va rééquilibrer l'ensemble du championnat, qui est déjà un championnat.
Ça va le rehausser. Alors pour l'instant, on parle que d'un seul joueur. Hyper important. C'est tout ce qu'on va
le
dire.
Ça va le rehausser, en fait, le niveau du championnat.
Mais ça va rehausser le niveau du championnat, sauf que d'un côté, on aura toujours Toulouse qui sera au-dessus parce qu'ils ont des années d'avance.
Non, parce que l'écart se réduit depuis quelques années. C'est faire fi des autres clubs qui travaillent très bien. C'est faire fi des autres clubs.
La demi-finale était fantastique. Franchement, j'ai passé un moment exceptionnel. Le 71-17, c'était un match vraiment. On a vu que ça se resserrait.
Toulouse est 4 fois consécutivement champion de France, et tu l'as rappelé, tu fais bien de le rappeler. Donc Toulouse a encore de l'avance. C'est le meilleur club du monde dans le meilleur championnat du monde. Il faut se dire que les autres clubs, ces 13 concurrents, parmi la plupart de ces clubs, je pourrais citer Pau, je pourrais citer Bordeaux, je pourrais citer Montpellier,
les doubles champions d'Europe,
La Rochelle, voilà. Donc tout ceci travaille conséquemment très bien également en termes de formation. Là où le Stade Toulousain est le meilleur, incontestable, parce qu'ils ont des viviers de jeunes incroyables, tous internationaux dans la catégorie.
Et
cette avance, c'était mieux quand c'est un seul joueur. Mais le problème, c'est que c'est un joueur qui incarne le Stade Toulousain, qui est formé au Stade Toulousain, et ça, je suis désolé, pour un spécialiste amoureux du rugby que je suis, pas spécialiste mais amoureux du rugby, passionné de rugby, c'est une des rares fois où un joueur cadre du Stade Toulousain en pleine force
de son talent,
ça montre une chose, c'est que
le sur Stade terrain, il va y avoir aussi l'apport Toulousain sur les autres joueurs.
Absolument, on va passer de 71-17 à 71-50.
Non, mais
laisse finir Pascal.
Le Stade Toulousain, en fait, a l'habitude de conserver ses joueurs cadres. Et les joueurs cadres ne pensent même pas à partir du Stade Toulousain. Tant sportivement, ils y trouvent leur compte, et tant financièrement, jusqu'à les amendes, jusqu'à le fait que le Stade Toulousain, comme d'autres, parce que je pense c'est pas qu'ils magouillent, mais ils sont obligés de trouver des solutions pour payer leurs joueurs. Donc le Stade Toulousain n'a pas l'habitude de cela. Et quand tu sais que tu as Jelonge qui est en fin de contrat, Kroos et Meafou, pour ne
citer que trois autres joueurs phares de l'équipe. Et imaginons qu'ils partent tous en même temps l'année prochaine, ces quatre-là. Alors bien sûr, la formation va compenser, mais malgré tout, tu renforces la concurrence, cette concurrence qui travaille déjà très bien. Le Bordeaux a été deux fois consécutif champion d'Europe, et pourtant Toulouse était sur la ligne de départ.
Ouais.
Donc si t'aimes mieux, tu vas renforcer la concurrence, créer, nous l'espérons tous, c'est bien pour le top 14, il sera encore meilleur.
Mais pourquoi tu gardes des 4 joueurs
concurrence accrue. En fait, je finis, une concurrence accrue, cette concurrence accrue, elle peut faire qu'à terme, ok, si au stade toulousain on peut pas prolonger les joueurs qui sont de top niveau sous prétexte qu'on en a trop et que le salary cap t'empêche, eh ben fatalement, à un moment donné, l'hégémonie, elle cesse. Voilà, c'est inéluctable.
Quelques précisions avec Pierre, justement, sur quand tu parles de pas de magouille oui. du stade toulousain.
Non,
Pierre,
mais c'est important de le rappeler que, évidemment, le stade toulousain a mis en place un système qui est exceptionnel. Il domine largement le top 14 depuis plusieurs années. Là, ils se sont fait prendre la main dans le sac plusieurs fois, quand même, sur ce salary cap. Et oui, on peut dire ce que disent beaucoup de supporters toulousains. Tout le monde triche, on est les seuls à être accusés. Ben, oui, mais c'est pas forcément vrai, parce que le fait est que c'est le stade toulousain qui est attrapé. Voilà. Oui, mais oui. Des subterfuges qui leur coûtent 3 millions d'amendes. C'est au-delà du subterfuge. Oui, mais le stade toulousain l'a été sur les dernières saisons. Le stade toulousain l'a été à de nombreuses reprises. Et c'est aussi ce départ de Thomas Ramos. C'est pas que ça la raison, mais il peut aussi être vu comme une des conséquences de ces amendes. 2,88 millions d'amendes sur un club qui a un budget de 55 millions, c'est énorme. Donc pour l'instant, le club a fait appel, hein, on le rappelle. Mais évidemment que ça joue, ces amendes-là.
Oui, mais il n'y a pas que ça. Il le disait, Thomas Ramos, c'est.
Il n'y a pas que ça, bien sûr.
Non, il y a aussi le fait de vouloir s'essayer à un autre poste où il y a embouteillage au stade toulousain. Moi, je vais revenir sur un exemple qui, j'espère, va te faire changer d'avis, Fred.
Alors, ça m'étonnerait.
Pour qu'il y ait un équilibre en NBA, la draft, les meilleurs de la draft se font drafter par les clubs les plus mal classés, non ?
Alors, c'est pas tout à fait ça.
Donc ça voudrait dire que Wembanyama n'a pas changé la face du club des Spurs.
Si on simplifie tout, oui, je peux tout simplifier, mais c'est pas tout à fait ça.
C'est exactement comment fonctionne la NBA pour pas que les meilleures franchises puissent avoir accès aux meilleurs joueurs à la draft.
Donc je vais rebondir sur ça. Je vais t'accorder ce truc qui est pas tout à fait vrai, mais admettons. Je vais t'accorder que effectivement c'est les pires équipes qui ont les meilleurs choix de draft. C'est vrai, mais il faut 3-4 ans de construction. Donc quand vous me dites que ça va redistribuer les cartes, oui,
ils ont mis 2 ans.
Est-ce que c'est une porte ouverte à effectivement une évolution du championnat où le salary cap te permettra dans 3-4 ans de concurrencer Toulouse? Pour moi, là, pour les 3-4 prochaines années, Toulouse a trop d'avance. Alors, et ça ne va rien distribuer.
Concurrencer Toulouse ou pas, mais en tout cas redistribuer les cartes, parce que c'était ça l'intitulé aujourd'hui, voilà. Parce que Pierre, effectivement, Toulouse est concerné, mais il y a aussi l'UBB, parce que Louis Bielbiaré aussi est en question pour rester à l'UBB.
Oui, bien sûr, pour ces questions de salary cap, ça devrait le faire, hein, la prolongation de Louis Bielbiaré. Ils sont toujours en négociation. Et là, c'est lié pour le coup à l'arrivée d'un sponsor, Adidas, qui est le sponsor du joueur, Louis Bielbiaré, qui va également sponsoriser le club à partir de 2027. Et vous le savez, c'est un petit peu compliqué à nouveau, mais les contrats publicitaires d'un joueur, si la marque qui le paye est également liée au club, ça rentre dans le salary cap. Et donc, Louis Bielbiaré ne pourra peut-être pas être autant payé, ou en tout cas, l'UBB devra faire des choix. Si ce que Adidas verse à Louis Bielbiaré est intégré dans la masse salariale du club, ça va être très compliqué pour eux également. Donc, il y a des discussions là-dessus aussi, et ça montre bien que ça concerne tous les clubs. Certes, c'est un rééquilibrage qui, du coup, commence par le Stade Toulousain, parce que le Stade Toulousain domine tellement que les premiers effets, on va les voir peut-être sur le Stade Toulousain, mais tout le monde est concerné et tout le monde va devoir bosser intelligemment pour pouvoir rivaliser.
On a Xavier qui est avec nous au 32-16 qui nous a appelé ce matin. Salut Xavier.
Oui, bonjour les GG.
Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Est-ce que tu penses que le top 14 va être rééquilibré du coup ?
Non, je pense pas. Et puis ce que vous venez de dire là me fait extrêmement plaisir, parce que jusqu'à maintenant et depuis très longtemps, dans les médias, on fait passer le Stade Toulousain pour des grands tricheurs. Il faut savoir que le problème vient souvent de ça, des contrats à l'image que les joueurs ont. Et comme vient de le dire votre correspondant, votre journaliste, le problème est que si c'est un partenaire du club qui signe un contrat à l'image d'un joueur du club, eh bien ça vient pour le salary cap faire une sorte de doublon, et ces contrats à l'image devraient être intégrés au salary cap du club. Et nous, le problème, c'est que on a énormément de joueurs qui sont sélectionnés pour le 15 de France. Très honnêtement, on nous prend le pilier gauche, les deux talonneurs, le pilier droit, les deux deuxièmes lignes, trois troisièmes lignes,
quoi.
Le 9, le 10, le 12, le 13 et l'arrière. Donc au bout d'un moment, on nous prend tous nos joueurs. Je vois pas pourquoi on ne pourrait pas recruter des joueurs d'un niveau équivalent pour avoir nos chances dans le championnat. Parce que sinon, Toulouse, donne-nous tes joueurs et puis ton équipe, on s'en fout. Ça, c'est pas réglo. Moi, je veux dire, je vois pas pourquoi on faudrait qu'on me déshabille mon club pour habiller l'équipe de France. Ou alors, vous faites une règle, vous faites que seulement trois joueurs par club puissent être sélectionnés dans le 15 de France.
Ah, et ça, c'est un autre
et nous,
sujet.
À Toulouse, ce qui nous a fait avoir surtout, c'est ces problèmes de contrat. Moi, vous dites qu'on n'a jamais vu des cadres de Toulouse partir. Je suis désolé, mais c'est pas vrai du tout. On a eu Thomas Castagnède qui est parti alors qu'il était à la bouche.
J'ai dit récemment, Xavier. J'ai dit dans le cycle de domination récente.
Il y a eu Michalak, oui.
Michalak est parti. Il y a eu
Gaël Ficou.
Voilà. Donc là, on va perdre Ramos. Moi, c'est pas tant le joueur, le poste en lui-même qui me pose problème, c'est le buteur. Mais on a pu voir aussi sur la fin de saison dernière que Romain avait fait de gros progrès au niveau du
Ntamack,
but. Mais par contre, si Romain Ntamack n'est pas là, on a vu que Kingham n'était pas l'assurance tout risque. Et le problème dans le rugby, vous savez ce que c'est qu'on a souvent des joueurs qui se blessent parce que c'est un sport très fort sur les contacts physiques. Mais dans l'absolu, je suis pas encore trop inquiet. Moi, je serais plus inquiet si on commence à avoir 3-4 joueurs, comme vous l'avez dit, des crosses, des meilleurs, des
jeunes
qui doivent partir.
Effectivement, on verra. Effectivement, ça continue de bouger si le Stade Toulousain et d'autres clubs d'ailleurs continue d'être obligé de se séparer de certains joueurs en raison de ce salary cap. Merci Xavier de nous avoir appelé ce matin. Merci à Pierre Thévenet d'avoir été avec nous qui est sur les routes du Tour de France. Femme actuellement, Pierre qu'on retrouvera toute l'après-midi avec Maria Azé pour suivre l'avant-dernière étape aujourd'hui sur RMC. 10h28, les grandes gueules du sport reviennent dans quelques instants avec la punchline des GG. Justement, on va parler de ce Tour de France femme avec Pauline Ferrand-Prévot. Pas au niveau, ce sont ses mots à elle. Et puis bien sûr, le vestiaire aussi à suivre à 11h. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Flora Moussi. 10h33 sur RMC, on est de retour dans les grandes gueules du sport avec Fred Veil, Sarah Pitkowski et Pascal Duprat. Il est 10h33 et on va parler un petit peu maintenant du Tour de France femme. La punchline du jour ce matin est signée Pauline Ferrand-Prévot.
RMC, la punchline GG.
Et avant, on avait l'ambition de faire à notre allure, que ce soit Marion, Samki et moi. Maman gardait les watts qu'on pouvait garder sur une heure. Non, je suis contente de maman, que j'ai rien lâché. Et voilà, je suis pas au niveau tout simplement. Donc, il n'y a pas de regret à avoir. J'ai tout donné aujourd'hui. Et puis, c'est ça aussi la vie. C'est des fois, on travaille dur, mais ça ne peut pas pour ça. Mais voilà, se remettre en question, voir ce qu'il a été, ce qu'il n'a pas été. Et puis en tirer des conclusions et revenir plus fort l'année prochaine.
Pauline Ferrand-Prévot dans le vent du Mont Ventoux dans lequel elle a explosé hier au début de l'ascension. Elle pointe ce matin à deux étapes de la fin de ce Tour de France femme à 10 minutes et 44 secondes de la leader et vainqueur hier, Katarzyna Niewiadoma. Maria Azé qui a commenté cette étape de dingue hier sur RMC était avec nous. Salut Maria.
Salut Flora, salut tout le monde.
Salut.
On espérait éventuellement, Maria, un sursaut hier de Pauline Ferrand-Prévot dans le Mont Ventoux, mais finalement, la Française, elle n'a jamais été en mesure de rivaliser sur ce Tour de France.
Non, ça a commencé lundi, dès la troisième étape. Elle était déjà pas accrochée dans les ascensions. Alors, on s'était dit qu'elle manquait de punch sur ce Tour de France. Ça a continué mardi sur le contre-la-montre. Elle perd 2 minutes. Là encore, on se dit que c'est pas son exercice de prédilection, mais elle perd quand même 2 minutes. Mercredi, on comprend qu'elle ne jouera pas le classement général. Et hier, elle s'enfonce un peu plus. Ça a été un Tour de France très compliqué pour Pauline Ferrand-Prévot. Hier, dans le Mont Ventoux, elle lâche dans les 400 premiers mètres de l'ascension, alors qu'on pensait qu'elle irait peut-être tenter de décrocher cette victoire d'étape, alors que elle nous avait dit avant le début de ce Tour de France qu'elle s'était préparée, une préparation de moine comme on dit, pendant 2 mois et demi. Elle avait dit qu'elle avait jamais été si forte à l'entraînement, que ses données étaient exceptionnelles, mais c'est quand même impossible que ses adversaires aient pris autant de marge par rapport à l'année dernière où Pauline Ferrand-Prévot avait écrasé tout le monde avec plus de 3 minutes 40 d'avance. Donc on le saura probablement plus tôt après le Tour de France. Elle a tendance à garder un petit peu sa communication pour elle pendant le Tour de France. Elle nous dira probablement ce qui n'allait pas après le Tour de France, la chaleur, peut-être un problème physique pour Pauline Ferrand-Prévot, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est bien, bien, bien loin du niveau de Katarzyna Niewiadoma ou de Demi Vollering.
Merci Maria, tu restes évidemment avec nous pour toutes les précisions. Les GG, je vous pose cette question ce matin. Est-ce qu'on a eu trop d'attentes autour de Pauline Ferrand-Prévot avant ce Tour de France femme ? Fred ?
Oui.
Sarah ?
Oui, malgré elle.
Très bien. Il y a de la nuance. Pascal ?
Non.
Très bien. Alors Pascal, j'ai envie de démarrer avec toi. Du coup, pourquoi tu estimes qu'on n'a pas eu trop d'attentes avec la vainqueur en titre de ce Tour de France femme ?
D'une part parce que c'est une des stars du peloton féminin. Mm-hmm. Et elle était la tenante du titre. Elle avait dit, et on a toutes les raisons de le croire, qu'elle s'était préparée pour tenter de faire le doublé. Elle avait bon espoir de le réaliser. Et donc à partir de là, c'est normal. Elle est championne olympique, c'est normal que nous soyons tous impatients de l'avoir dominé le peloton du Tour de France. Or, comme l'a très bien dit Maria, dès les premières escarmouches, on a très vite senti qu'elle était en dessous, non pas des deux leaders actuels, mais de beaucoup de coureuses, ah, oui. De beaucoup de coureuses qu'elle a l'habitude de toiser, en fait, de battre, non pas facilement, mais en tout cas, elle a prouvé qu'elle était bien meilleure que beaucoup des coureuses qui aujourd'hui sont mieux classées qu'elle, songez plutôt. Et là, je ne sais pas combien de minutes de retard au classement
10 minutes,
général.
Un peu 14, plus de 10 minutes.
14 minutes. 14 minutes de retard, elle a cumulé. À chaque étape, elle a pris, quelles que soient les étapes. Et on doit le reconnaître, c'est une déception, mais ça doit être une déception avant tout pour elle. Et il sera question de chercher les raisons. Moi, je la trouve très amaigrie.
Après, c'était déjà le cas l'année dernière. Hein, Maria peut peut-être nous préciser ça, parce que ça avait été un vrai débat aussi l'année dernière autour de ce Tour de France femme, notamment Pauline Ferrand-Prévot, qui avait été pointée du doigt pour cette maigreur, selon certains.
Oui, et puis l'année dernière, ça avait fonctionné. Hein. Elle avait fait cette préparation, elle s'était affûtée comme jamais pour les grosses ascensions. Là, cette année, elle a refait la même chose, tout simplement, que l'année dernière, parce que ça avait fonctionné. On dit même qu'elle aurait un petit peu moins perdu que l'année dernière pour le contre-la-montre, pour garder un petit peu de puissance. Mais non, le problème, il est probablement pas là. Il est plus du côté d'une maladie, d'un problème physique. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais il y a quelque chose, c'est évident.
Sarah, tu disais oui, mais malgré elle, pourquoi ?
Malgré elle, parce que... ce Tour de France féminin qui est redevenu sur le devant de la scène gravit les marges de la notoriété et de l'intérêt petit à petit. Mais l'année dernière, il y a eu ces trois dernières étapes qui ont fait exploser Pauline Ferrand-Prévot qu'on ne voyait pas. Pascal était l'outsider, c'était pas la favorite en fait. Et elle a fait rêver tout le monde. Ouais. Et donc en fait, cet intérêt du Tour de France féminin, il a explosé par Pauline Ferrand-Prévot qui l'a remporté. Et donc, pour une évidence très simplette, on pense que Pauline Ferrand-Prévot elle va faire un doublé en fait. Mais elle a moins couru que l'année dernière et on sait que Pauline, tout au long de sa carrière, elle a été quand même en dents de scie. Hein. Elle a eu des blessures ou des maladies et elle s'est jamais trop épanchée sur les bas qu'elle a eus. C'est quelqu'un qui, quand elle communique à la presse, c'est la méthode Coué. Oui, les autres sont meilleurs que moi cette année. Elle a toujours été comme ça. Moi, je me souviens quand elle est passée complètement au travers des Jeux Olympiques de Rio où on l'attendait. Donc, ça a souvent été ça, sa carrière. Mais c'est vrai que l'année dernière, donc il y a eu Paris 2024 et juste un an après ce Tour de France, c'est que, comme elle le dit, elle n'est pas Pogacar et nous, on l'a mis au même niveau qu'un Pogacar qui devait tout rafler. Mais c'est bien Vollering, la numéro un mondiale. Donc je pense que malgré elle, on l'a élevée au rang de celle qui doit tout gagner dans le vélo.
Cela dit, la course est magnifique. Il faut quand même rendre hommage aux trois
concurrentes. Et l'état d'hier.
Oui, c'est ce qui est d'ailleurs capable du niveau des autres. Mais Fred, tu me disais non assez ouvertement.
Non, je dis oui.
On avait
trop d'attentes parce que tout simplement c'était même plus une sportive, c'était quasiment l'égérie du sport féminin
du vélo féminin
mais presque français. Du vélo en général non mais même pas que parce qu'on a l'impression quand on discute, on a eu la chance encore une fois cet été de discuter avec pas mal de cyclistes qui nous expliquaient, nous on n'avait même pas l'occasion de rêver d'être professionnel et on a l'impression qu'elle a amené cette capacité à se dire on peut rêver, on peut être professionnel, elle a ouvert les portes pour tout le monde et on a commencé à se dire elle va gagner quoi qu'il arrive. Mais effectivement, Sarah a raison. Quand tu regardes le début de saison, elle court moins, elle gagne pas, elle fait pas un début de saison incroyable, mais on l'a cru sur parole parce que C'était la coureuse incroyable. C'était légériste incroyable. Je vais juste revenir sur un argument de Pascal et j'aime pas l'attaquer, c'est vraiment pas mon truc. Mais on parle de championne d'Europe, oui, mais pas sur route, hein, de cross-country, c'est pas exactement la même chose. Donc c'est difficile de comparer les deux. Mais j'ai l'impression que effectivement,
quand même.
Oui, mais de cross-country, c'est un peu comme si tu faisais du paddle et du tennis. C'est magnifique, mais c'est pas exactement
pareil. Les roues sont pas carrées.
Les roues sont pas carrées, mais c'est pas du tout la même épreuve. Mais juste pour dire, effectivement, je pense que c'est pas de sa faute, mais elle a attisé tellement d'envie, de joie, de bonheur, de capacité à créer un événement avec le Tour de France Femmes. Le Tour de France Femmes est devenu un événement. Pourquoi ? En grande partie parce qu'elle a gagné, parce qu'elle était là. Sur les routes, Marianne nous l'a expliqué plein de fois. Les pancartes, c'est Pauline Ferrand-Prévot. Donc effectivement, on a mis énormément de pression sur cette fille. On ne savait pas exactement ce qu'il en était, mais on a cru.
Elle-même a dit qu'elle voulait faire le doublé.
C'est un réflexe de sportif, mais rappelle-toi ce qu'elle a dit au début de Tour de France.
Elle assume le fait de vouloir gagner.
C'est pas vrai, Pascal, t'as pas écouté tout ce qu'elle a dit. Elle a dit avant le Tour de France, elle a commencé à rejeter la pression sur tout le monde parce qu'elle sentait qu'elle en avait trop. Elle a dit demi-voleuring est vraiment très forte, je suis pas la meilleure, je suis peut-être pas dans les meilleures conditions. Elle a essayé de repousser un petit peu en début de Tour de France parce qu'elle-même sentait qu'elle avait trop de pression.
C'est un sujet effectivement intéressant et je voudrais entendre Maria aussi là-dessus parce que c'est vrai que Pauline Ferrand-Prévot parle beaucoup de ses concurrentes et justifie notamment son classement général aujourd'hui parce que ses principales concurrentes ont élevé aussi leur niveau. Et Maria, je pense que beaucoup ont vu aussi le message sur les réseaux sociaux de Lilian Calmejane, l'ancien coureur aussi, qui a été très dur avec Pauline Ferrand-Prévot.
Il n'est pas bien son nom, hein.
Il n'est pas calme, non. Mais il s'est aussi basé sur des chiffres, Maria, parce qu'on parle beaucoup des watts aujourd'hui dans le cyclisme moderne.
Oui, tout à fait. Les watts, ça fait partie intégrante du cyclisme aujourd'hui. On en parle même peut-être un peu trop des watts. Mais oui, Lilian Calmejane, il a essayé de comparer un petit peu Col de la Madeleine. L'année dernière, elle gagne le Ventoux avec... Alors, je vais vous donner les watts. Je sais pas si ça va vraiment vous parler, mais c'est à une heure. Alors, attendez. J'essaie de comprendre son raisonnement, mais c'est 5 watts par kilo en 1h5, alors que c'est 5,15 watts par kilo en 1h6 pour Kasia Niewiadoma hier. Donc,
finalement, il n'y avait pas de niveau. C'est-à-dire que si elle avait été au même niveau qu'elle a monté le col de la Madeleine l'année dernière, elle aurait remporté cette étape.
Elle aurait monté, c'est qu'aujourd'hui, ça se serait bien passé. Mais c'est vrai. Mais Fred a raison sur ce qu'il dit. Dans le côté, dès le début de ce Tour de France, elle a essayé de décharger, elle a voulu décharger la pression sur les autres. Elle est arrivée le week-end dernier en nous disant ça changera pas ma vie si je gagne un deuxième Tour de France. Alors peut-être que dès le début elle sentait qu'elle avait un niveau en dessous, mais
elle avait pas le même état de forme. Elle a fait la Vuelta, elle termine 35e l'année dernière. Elle avait abandonné, elle avait peut-être aussi plus d'énergie, rechargé les batteries avant le Tour de France. Donc elle a pas eu le même programme. Je vais peut-être m'avancer sur un terrain glissant.
Oulala.
Mais je pense que ce sport, le vélo, l'état de forme, tu peux pas le compenser juste avec l'envie. Quand t'as pas de jambes, t'as pas de jambes. Je pense que l'état physique des coureuses, il est peut-être un petit peu plus fluctuant que les hommes. Je vais faire une comparaison avec le tennis, c'est-à-dire que le tennis, quand on dit souvent quand la joueuse elle sent pas bien la balle, son niveau de jeu il va descendre beaucoup plus bas qu'un homme qui lui a moins de sensations ce jour-là, il va le compenser avec une certaine puissance, donc ça va moins se voir. Donc est-ce que peut-être que Pauline Ferrand-Prévot avait moins de jus, avait moins d'énergie? Et donc, elle ne peut pas compenser cette petite baisse de régime par rapport à un coureur qui, lui, pourrait le masquer un peu plus longtemps.
Honnêtement, je ne peux pas te répondre à ça. Et je pense que Maria nous
répondra. C'est des sports d'endurance.
C'est plus difficile, évidemment. Ouais. Mais moi, ce qui m'inquiète un petit peu, et c'est là que je me dis qu'on lui a mis trop de pression, c'est qu'elle les rejette tout le temps la pression. En disant, justement, on en a parlé tout à l'heure, en disant, c'est les autres qui sont meilleurs et ce n'est pas moi qui suis moins bonne. C'est une façon de rejeter la pression, c'est une façon
non,
de rejeter
sérieux, la pression. Non, mais sérieux, tu vas pas t'auto-flageller devant les médias. Oui, t'as 10 jours de course.
J'ai pas dit ça.
On lit entre les lignes. Voilà, c'est sa manière de communiquer.
Mais elle va pas dire,
je suis pas bien, j'ai des petits bobos. On va lui dire qu'elle trouve des excuses dans ces cas-là.
Non, tu peux dire, elles sont plus fortes que moi.
C'est ce qu'elle a dit.
Oui, mais elle dit en disant que ce qui n'est pas tout à fait vrai. C'est elle, et moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'elle ait une vraie analyse en disant je suis pas bien, je suis moins bien.
Mais peut-être qu'elle nous fera la fin des 10 jours.
C'est ce qu'a dit Maria, c'est qu'effectivement, et c'est intéressant aussi de t'entendre là-dessus, Maria, pour terminer sur ce débat. Mais la communication de Pauline Ferrand-Prévot, c'est vrai que l'aspect mental de la Française a souvent été aussi pointé du doigt. Dans toute sa carrière, d'ailleurs.
Elle a une communication un peu curieuse hein, tout au long de cette semaine. Je ne sais pas si vous avez vu, mais elle arrive hier. Elle arrive au sommet du Mont Ventoux avec 10 minutes de retard et elle est tout sourire. Mm-hmm. On a l'impression qu'elle essaie un peu de se déconnecter de ce qui se passe à côté d'elle, du niveau des favorites, de son niveau à elle. Donc oui, je pense qu'elle communiquera après sur ce qui s'est réellement passé. On a l'impression qu'il y a aussi un problème du côté de la Vismalise Bike, hein, son équipe, qui est quand même une des meilleures équipes du peloton, si ce n'est la meilleure. Et clairement, elles sont pas au niveau parce que ses coéquipières non plus hier dans le Mont Ventoux, il y en a pas une qui arrive à suivre. Donc c'est peut-être un problème plus global au niveau de la préparation de l'équipe aussi, mais évidemment on en saura un petit peu plus après le Tour de France. Elles le disent jamais pendant le Tour de France.
Et oui, puis elle va pas commencer à critiquer son équipe aussi. On est sur un sport individuel, mais qui se pratique en équipe. Donc en fait, il y a plein de données qui aujourd'hui.
Elle est moins bien entourée. Ça c'est sûr. Et on en parlera aussi.
Moins bien préparée.
On en parlera aussi demain, Maria. Un petit point quand même sur ce classement général du Tour de France, parce qu'on parle de Pauline Ferrand-Prévot, mais là pour le coup, le suspense il est total hein, pour ces deux dernières étapes.
Oui, ça va être exceptionnel, ça va être vraiment un super week-end. On a vécu une étape incroyable hier avec Nievia Doma qui avait 1 minute 17 de retard au général hier matin et qui là a 15 secondes d'avance sur Demi Vollering et qui a récupéré le maillot jaune, la polonaise hier. Donc Demi Vollering, il y a eu un petit souci tactique hier à Katarzyna Nievia Doma, a attaqué Demi Vollering et Marlène Reusser n'ont pas suivi, elles l'ont laissé partir et là elle se retrouve un petit peu reléguée au général, mais il n'y a que 15 secondes. L'étape d'aujourd'hui c'est plutôt une étape de sprint entre Sisteron et Nice, donc plutôt une étape promise à Lorena Vibes, la maillot vert. Mais demain, on a une quadruple ascension du Col d'Aise sur les hauteurs de Nice. Et je pense qu'on va avoir une bataille assez exceptionnelle. Rappelez-vous, en 2024, il y avait eu 4 secondes entre Nievia Doma et Vollering. C'était Nievia Doma qui s'était imposée. Je pense qu'on va revivre un petit peu le même scénario.
Ouais, soif de revanche, effectivement. Merci beaucoup, Maria. On te retrouve tout à l'heure dès 15h dans l'intégral Tour avec Pierre Thévenet, avec Johan Bredov, avec Camille Failly, notre consultante, pour vivre cette avant-dernière étape du Tour de France femme. 10h47 sur RMC. On fera le bilan de ce Tour de France aussi demain dans les grandes gueules du sport. On se retrouve dans quelques instants pour un petit j'y crois, j'y crois pas. On va essayer de voir si vous mouillez un petit peu sur ce qui peut arriver dans les prochains mois. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Flora Moussi.
Il est 10h49, on est de retour dans les grandes gueules du sport avec Fred Veil, Sarah Pitkowski et Pascal Duprat. Un petit j'y crois pas dans quelques instants, mais d'abord un détour avec ce qui se passe dans la Seine. Actuellement, les championnats d'Europe de natation, c'est de l'eau libre évidemment. On suit tout ça avec Clément Brossard, avec actuellement le relais 4 x 1500 mètres avec l'équipe de France. Où en sont nos bleus, Clément?
Ce sera trop compliqué, Flora. Comme on vous l'a annoncé, la France est quatrième décrochée. On est sur le dernier relais. Là, on a plus de 45 secondes de retard sur le podium. Sacha Velli, le dernier nageur de ce relais qui vient de s'élancer. Pas de surprise finalement. C'est ce qu'on vous annonçait donc dès le départ. Le classement des nations est respecté. Les pointures se tiennent avec l'Allemand Florian Velbrock, vainqueur sur le 10 km et 5 km cette semaine, qui va finir premier, sauf surprise. Bagarre ensuite entre le Hongrois David Bethlehem et l'Italien Gregorio Paltrinieri. Ça, ce sera pour l'argent ou pour le bronze. Mais la France a bien trop loin. Alors attention hein, sur le dernier relais, s'il y a un petit souci physique, quelque chose comme ça, on peut en profiter, prendre la troisième place. Derrière, c'est trop loin pour la cinquième. Mais bon, les trois devraient se tenir, ce sont des références internationales. Donc malheureusement, on n'aura pas de dernière médaille sur ce relais.
Merci beaucoup Clément. Les championnats d'Europe de natation qu'on suivra évidemment sur AMC, notamment à partir de lundi, avec la compétition en bassin avec un certain Léon Marchand. Un petit j'y crois pas, les GG. Cette saison, la Ligue 2 va être plus intéressante à suivre que la Ligue 1. Fred.
Je n'y crois pas.
Pascal.
Je n'y crois pas.
Sarah.
Et moi j'y crois.
Ah voilà, j'ai envie de t'entendre. Justement, Nantes et Metz descendus la saison dernière, Reims et Montpellier descendus la saison d'avant, Saint-Etienne et Clermont toujours en place, Dijon et Sochaux qui remontent en Ligue 2. On se retrouve avec beaucoup d'anciens clubs de l'élite française en Ligue 2 la saison prochaine. De quoi, a priori, rendre le championnat très attractif, Sarah, et très homogène.
Surtout. Et bien surtout très équilibré, ouais. Voilà, tout simplement, parce que tu viens de le dire, la Ligue 2 est composée d'un certain nombre de clubs historiques qui ont déjà été champions de France. Il va y avoir 34 journées à suivre et l'autre argument que je vais avancer, c'est que le diffuseur de la Ligue 2 aujourd'hui a perdu la Liga et on sait que l'attractivité d'un championnat fait aussi est aussi due à la manière dont on le retransmet et la promotion qu'on en fait. Et aujourd'hui, beIN Sport, qui a perdu la Liga, va peut-être se concentrer sur la Ligue 2 pour en faire un produit.
Mais ils en faisaient déjà un produit.
Hein. Il y a un vrai
storytelling. En tout cas,
il va y avoir peut-être encore plus de storytelling, encore plus si le championnat se joue chaque week-end et qu'il y a beaucoup d'incertitudes, ce qui n'est pas le cas du côté de la Ligue 1, qui lui est spectaculaire sur le plan individuel, mais la Ligue 2 va être serrée de la première journée jusqu'à la dernière.
C'est sûr, probablement. C'est difficile.
Les enjeux sont extrêmement importants pour des anciens clubs de Ligue 1 de pouvoir remonter en Ligue 2 en Ligue 1. Et on sait qu'en plus, il y a les matchs de barrage. Donc, jusqu'au bout, il y a une incertitude. La preuve, on n'aurait jamais misé sur Le Mans qui allait remonter alors que Saint-Etienne semblait être celui qui devait remonter en Ligue 1. Donc, c'est pour ça que je pense que la Ligue 2 va être très intéressante.
Non, vous n'êtes pas convaincu.
Mais non, moi je suis
bien vendu.
Franchement, c'était hyper intéressant. Alors, je suis pas du tout d'accord, mais c'était hyper intéressant. Moi, je suis désolé. Je préfère toujours les meilleures équipes. Je préfère toujours voir le meilleur championnat. Qu'on me dise que c'est serré, c'est comme si tu me disais que il y avait un championnat départemental où toutes les équipes se valent. Bah, ça m'intéressera moins
en termes d'attractivité.
C'est un équilibre.
Oui, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est le beau jeu. C'est les belles équipes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux, par définition, la Ligue 2, c'est pas la Ligue 1. Donc ça joue moins bien.
Donc tu regardes que la Ligue des Champions, toi.
Je lis quasiment. C'est ce que je préfère. Effectivement.
Donc toi, tu ne regardes que la Ligue des Champions.
Quasiment que la Ligue des Champions et je regarde la Ligue 1 parce que la Ligue 1 m'intéresse aussi. Mais par extension, je vais regarder la Ligue 2. J'ai pas dit que je la regarderai pas. J'ai simplement
Tu peux très bien regarder la Ligue 2, la Ligue 1, la Ligue des Champions.
Mais pour qu'il y ait une Ligue 2. Enfin, je veux dire, pour qu'il y ait des meilleurs, faut qu'il y ait des joueurs, faut qu'il y ait des clubs en dessous. C'est le principe du sport. Quand il y a une pyramide, il faut qu'il y ait une base.
J'entends Pascal rigoler un petit peu dans sa barbe.
Non mais Sarah, franchement, ton argumentaire, il était extra. Franchement, t'as bien vendu la Ligue 2, mais cela dit, je suis obligé d'aller vers le raisonnement complètement simpliste, mais tellement réaliste.
Mais c'est pas ça qui correspond plus, Pascal.
La Ligue 1, c'est mieux que la Ligue 2. Voilà. Et même si cette Ligue 2 s'élève chaque année, ok, le niveau est conséquent en Ligue 2 en France, mais la Ligue 1, ça restera. La Ligue 1, c'est le sommet de nos championnats et pour que la Ligue 2 soit plus attractive que la Ligue 1, il va falloir qu'il se passe beaucoup d'années.
Non, mais t'es quand même d'accord, Pascal, que c'est un petit peu plus facile de prédire qui va être champion de France de Ligue 1 que qui va remonter.
Si tu dis Saint-Etienne, Nantes et Metz, tu seras pas loin des deux élus.
Bah, regarde, Saint-Etienne, finalement, ils sont pas remontés l'année dernière.
Trois matchs de la fin, ils se sont vautrés à trois journées de la fin.
Donc vous préférez l'incertitude à la qualité du jeu, quoi. C'est ça que vous êtes en train de
m'expliquer. Il existe en Ligue 1.
Il y a deux niveaux, on va être très clair. Il y a deux niveaux en Ligue 1. T'as le PSG et les autres, et t'as le podium.
Mais donc à partir du moment où t'as un podium, tu sais pas qui sera sur le podium. Tu sais pas qui va figurer, tu sais pas comment le titre de champion.
Ce qui est quand même l'intérêt premier d'un championnat, c'est que
les matchs de Ligue 1 seront meilleurs, encore une fois, par un raisonnement peut-être simpliste, mais ils seront meilleurs.
On a quand même évoqué le fait que le niveau de la Ligue 1, même avec un OM qui est en train de dégraisser et qui ne sait pas avec quel effectif il va jouer, on a entendu de dire que 6-7e, même sans un grand effectif.
T'as une audition, c'est écrit parce que c'est pas le sauf Pascal. Pascal n'a pas dit du tout, c'est un auditeur qui dit ça.
On verra ce que ça donne dans cette saison. En tout cas, on verra si vous êtes toujours attentif à ce qui va se passer en Ligue 2.
Mais on verra si Sarah suit la Ligue 2. Moi, je serais hyper intéressé.
Évidemment. 10h56 sur RMC. La dernière ligne droite des GG, c'est dans quelques instants. On va ouvrir les portes du vestiaire pour savoir comment nos GG géraient les fortes chaleurs quand ils étaient en compétition. Et puis sur le buzzer, on s'inquiétera de l'attractivité du tennis masculin mondial aujourd'hui. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.